Nous nous retrouvons pour notre deuxième partie de la nuit de la Saint-Valentin. Donc nous allons parler d'amour avec nos deux invités. Michel Zinc, le médiéviste que vous connaissez bien et qui intervient souvent sur notre antenne. Et puis la psychanalyste Martine Lerude. Martine Lerude, vous avez lu, je crois, avec beaucoup d'attention, ou plutôt écouté avec beaucoup d'attention, le cours que Michel Zinc a donné sur le Graal. Et ça vous a beaucoup inspiré, d'ailleurs. Si je vous écoute bien, vous disiez que, au fond, ce que vous en avez retenu, c'est ce trait fondamental de l'attention à l'autre, avec la question « Quel est ton tourment ?» Parce que dans les romans médiévaux du Graal, la question qu'il faut poser, disiez-vous d'ailleurs, Michel Zinc, n'est jamais « Où est le Graal ?» ni « Qu'est-ce que le Graal ?» mais « Au service de qui le Graal est-il mis et quel est ton tourment ?» Donc c'est une adresse à l'autre, un souci de l'autre, au fond. C'est ça qui vous avait intéressé.
Alors oui, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le commentaire de Michel Zinc, c'est la manière dont Perceval, je dirais, ce Graal passe à sa portée, mais qui ne sait pas le reconnaître, faute de pouvoir poser les bonnes questions. Et vous évoquiez le fait que les réponses étaient là, et que par contre, les questions, il ne les avait pas. Il ne pouvait pas les formuler. Et ça, pour moi, ça fait absolument écho dans ma clinique. Parce que d'abord, le Graal, ça pourrait être une métaphore de l'objet merveilleux qui viendrait comme ça présentifier l'amour, celui qu'on ne cesse pas de manquer tant il serait merveilleux. Et puis, dès qu'on s'en empare, il perdrait peut-être ce caractère merveilleux pour vite se transformer en objet de déchet, en objet épouvantable. Donc, il y aurait peut-être la métaphore du Graal qui viendrait jusqu'à nos jours, qui viendrait poser, je dirais, un objet inatteignable par rapport à tous les objets de la consommation ordinaire et qui sont là positionnés comme les objets de désir qu'on peut mettre en série et qui sont aussi vite possédés, aussi vite voués à la poubelle. Donc, est-ce qu'il y aurait un objet merveilleux? Et cet objet merveilleux, qu'est-ce qui nous... Et là, on est du côté, quand je dis objet merveilleux, on est vraiment du côté d'une certaine représentation, conception de l'amour, puisque l'amour, c'est l'imaginaire de chacun, c'est ce que peut dire Lacan, et je voudrais dire un mot après sur la conception de l'amour chez Lacan, ou les conceptions de l'amour chez Lacan. En tout cas, cette dimension de merveilleux, est-ce qu'elle n'est pas rabattue sur ces objets de consommation, parce que justement ce sujet contemporain ne sait plus poser les bonnes questions à l'autre, ces bonnes questions qui lui permettraient justement de sortir de cette fausse complétude qu'il croit être la sienne.
Oui, mais vous, vous étiez aussi très intéressé par cette adresse à l'autre, ce souci de l'autre que Michel Zinc a mis en avant pendant son cours, en commentant d'ailleurs une phrase et un texte de Simone Veil, et qui au fond s'adresse ce souci.
Alors, quand
ce
tu
souci
dis
de l'autre.
Quand vous dites, Christine, le souci de l'autre, alors là, on est tout de suite tiré du côté de Michel Foucault. Et ce que je trouvais particulièrement intéressant dans le commentaire de Michel Zinc, c'était de faire valoir cette adresse à l'autre par le biais de ce qu'il appelait l'attention. C'est un mot de Freud aussi, l'attention, Aufmerksamkeit. On n'en a pas fait grand cas dans les commentaires, mais c'est un concept tout à fait essentiel chez Freud. C'est-à-dire de pouvoir s'adresser à l'autre, non pas dans ce qu'il a de complet, de ce qui pourrait nous charmer, parce qu'il aurait les traits qui nous plairaient, les traits qui correspondraient à notre idéal, mais dans ce qu'il en est de sa faille radicale. Dans ce qui nous est radicalement inconnu. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, la conviction que dans l'amour, il y a ce qui est visé, c'est cette dimension radicalement inconnue de l'autre. Et qui le restera? C'est pas pour s'emparer de cet inconnu, mais c'est parce que cet inconnu de l'autre, qu'on pourra nommer de tas de façons différentes, on pourra dire que par exemple c'est son inconscient, ou que c'est l'être du sujet, ou que c'est le sujet en tant qu'il est divisé, on va trouver en tant que psychanalyste à différentes nominations, mais ce mouvement-là, ce mouvement d'adresse à cette part qui me sera radicalement inconnue, je crois que c'est une façon de poser l'amour dans un au-delà de l'amour narcissique.
Oui, Michel Zinck.
Oui, non, ce que vient de dire Martine Lerude est tellement riche et fondé sur des auteurs tellement impressionnants que je ne peux rien dire, mais juste, enfin, j'aimerais répondre dans trois directions, mais ça fait ça fait tout de suite cuistre aussi. D'une part, et ça ne m'étonne pas que ça intéresse une psychanalyste, parce que l'idée que l'histoire du Graal, c'est l'histoire d'une réponse sans question, elle avait été émise d'abord par Lévi-Strauss, qui avait dit, voyez, l'histoire d'Édipe est l'histoire d'une question sans réponse, celle d'une sphinx. Celle du Graal, c'est une réponse sans question. Et il avait trouvé des Indiens, je ne sais pas où, qui réunissaient dans la même légende, enfin dans la même histoire, les deux. L'histoire de la question sans réponse et l'histoire de la réponse sans question. Et alors la question sur la tension, moi j'étais parti de Simone Veil que l'histoire de Perceval soit l'histoire d'un jeune homme qui découvre l'attention à l'autre et qui découvre, aurait-on dit, dans la langue et dans la pensée du Moyen-Âge, et peut-être encore celle d'aujourd'hui, qui découvre la charité. Puisque le Moyen-Âge, on est dans ce monde chrétien. Ça, c'est une idée que j'avais eue tout seul. Et puis, j'étais tombé sur cette lettre de Simone... par hasard, sur cette... Enfin, pas par hasard, j'aime bien Simone Veil. Sur cette lettre de Simone Veil à Joël Bousquet, qui m'a beaucoup frappé, à tel point que je pourrais vous la lire, je l'ai toujours dans mon portefeuille. Bon. Et là, ça entrait en résonance avec l'attention pour Simone... L'attention est une notion très importante pour Simone Veil, parce qu'elle l'oppose à la volonté. La volonté est un retour sur soi-même. On se regarde vouloir quelque chose. On serre les mâchoires et on dit « oui, j'y arriverai, oui, je peux ». Et on ne peut pas parce qu'on ne regarde pas ce qu'on veut faire, on ne regarde que soi. Et elle dit, elle prend toujours le double exemple du problème de mathématiques ou de la version grecque. Si on est devant son problème de maths ou sa version grecque, on dit « oui, j'y arriverai », on s'en sort pas. Mais si on s'oublie soi-même et si on se plonge dans l'énoncé du problème de mathématiques ou dans le texte grec, à ce moment-là, on comprend. Eh bien, elle le transpose dans l'autre, et elles disent il n'y a rien de plus difficile que de savoir que l'autre existe réellement. On peut passer sa vie à essayer de le trouver, et le découvrir avant de mourir, c'est déjà énorme. Et je voudrais y arriver.
Oui, il y a peut-être un abus de ma part, effectivement, en utilisant cette référence à Simone Veil qui m'a beaucoup marquée en vous entendant.
Mais il n'y a pas d'abus du tout, au contraire. Mais
parce que, bien entendu, cette aller viser chez l'autre, je dirais, ce point radical qui nous échappe, je crois qu'il y a là une manière de penser l'amour autrement plus intéressante que dans celle de trouver chez l'autre les traits de mon propre idéal. Parce qu'au fond, c'est ça, l'amour narcissique, c'est quoi ? J'aime en l'autre mon propre idéal où j'ai reconnu un certain nombre de signifiants et de traits dont il est le porteur. Alors, bien sûr, c'est absolument extraordinaire. Ça m'est familier, c'est mon propre idéal. Et je m'y retrouve. Et puis d'un seul coup, je vais voir autre chose chez l'autre. Je vais voir d'autres, je vais entendre d'autres signifiants essentiels pour lui. Je vais voir d'autres traits. Et à ce moment-là, je vais dire, mais attention, il y a tromperie. C'est pas ça. C'est pas lui. C'est pas lui, effectivement, et ce n'était pas elle, comme dans le conte d'Alphonse Allais. C'est-à-dire que ce que j'avais vu, ce que je lui avais prêté, d'enrobage idéal, c'est moi qui l'avais, en quelque sorte, imaginé.
Oui, c'est la phrase de Proust, et dire que j'ai failli mourir pour une femme qui n'était même pas mon genre.
Oui, c'est autre chose. Oui, ce que vous avez dit, vous avez tout dit, il n'y a plus qu'à arrêter après ça. C'est évident, c'est ça. C'est évident.
Mais alors qu'effectivement, dans quelque chose qui va au-delà du paraître, de l'autre, pour reprendre des termes plus anciens. C'est-à-dire, c'est peut-être là que peut se déployer, effectivement, l'amour en tant qu'il ne cesse pas de s'écrire. Oui. Et qu'il ouvre un champ de créativité. Et dans ce champ de créativité, la poésie, bien entendu, il y a une place royale. Oui. Même si nous ne sommes pas poètes, même si je ne suis pas très poète en ce qui me concerne, néanmoins, il y a une possibilité de création et qui nous décale effectivement de cet imaginaire dans lequel on s'englue et qui constitue nos propres limites. Oui. Puisque ce que le sujet rencontre, c'est les limites de son propre imaginaire. Alors, est-ce que l'amour va lui permettre justement d'écarter les limites de son propre imaginaire, de faire que le cadre soit moins rigide et de pouvoir s'ouvrir d'une façon qui ne va pas être ce qu'on appelle la dépendance, parce que la dépendance, on met ça à toutes les sauces, mais d'une façon qui vient créer un autre espace où quelque chose d'un nouveau sujet peut surgir. Alors on va me dire, mais docteur Lerude, vous êtes beaucoup trop romantique, vous êtes beaucoup trop, positive, vous voyez les choses de manière optimiste, c'est pas ça du tout. Mais je le maintiens envers ou contre tout, et avec la pratique que j'ai aussi. C'est-à-dire qu'on a intérêt à ne pas rester sur ce repliement de l'imaginaire narcissique, et que quelque chose peut s'ouvrir.
Oui, Michel Zin.
Oui, non, mais là encore, il n'y a rien à ajouter. C'est à la fois lumineux et profond. Je reviens en arrière. Vous aviez dit, Martine Lerude, quelque chose sur le Graal lui-même tout à l'heure, qui est que, bon, une fois qu'on a trouvé le Graal, eh bien, cet objet n'est rien, c'est décevant. Hein. Et c'est tellement vrai que, à mon avis, c'est pourquoi, au Moyen-Âge, on n'arrivait pas à terminer les romans du Graal. Celui de Chrétien de Troyes est inachevé. Il est deux fois plus long que ses autres romans et il est inachevé. Et ensuite, alors, d'autres ont écrit des continuations pendant des dizaines de milliers de vers. Ça ne s'achevait jamais. Beaucoup de ces romans sont inachevés et ceux qui sont inachevés ne sont pas les meilleurs. Il est inachevé. Perceval revient, il pose la question, alors c'est Galahad ou tous les deux. Bon, puis voilà, ils ont gagné dans le Graal. Et dans le grand Lancelot Graal, à la fin de la quête du Graal, ça n'arrive pas à se terminer. Ils vont à Sarras, ils vont en Terre Sainte, il y en a un qui devient ceci, il y en a un qui devient cela, il y en a un qui meurt. Ça ne se termine pas. Puis après, il y a encore la mort, le roi Arthur. On revient dans le monde réel avec les grands problèmes de l'amour. L'amour de Lancelot et de Guenièvre, et le Graal n'a rien résolu. Et c'est pourquoi cela montre que l'essentiel du roman est décalé par rapport à cela. Il est dans cette attention, effectivement, dans ce mouvement de l'attention, et non pas dans l'objet qu'est le Graal. Mmh. Et je pense que dans le roman de Chrétien de Troyes, qui est inachevé, il y a un épisode qui reste en suspens et aucun des continuateurs ne le récupère, en somme, parce que il était peut-être un peu choquant pour l'époque, à partir du moment où le Graal était le vase dans lequel Joseph d'Arimathie recueille le sang du Christ, qu'elle lise la dernière scène, etc. C'est l'épisode Blanchefleur. C'est l'amour de Perceval pour Blanchefleur, ou plutôt l'amour de Blanchefleur pour Perceval. Lui ne lui pose pas de questions, il voit qu'elle pleure, il ne lui demande rien. Il est là, il se laisse nourrir, il voit que tout le monde meurt de faim, on lui donne à manger, bon, très bien. Il va se coucher, elle vient dans son lit la nuit, il dit quand même, vous allez avoir froid, venez, bon. Et puis il lui demande ce qui va pas, et il l'aide, et puis il dit, on pourrait se marier, d'abord il faut que je retrouve ma maman, puis après j'amènerai ma maman, hein, ce sera très bien. Et ensuite, il ne la retrouve pas, je pense que... Elle n'était pas là par hasard et elle devait reparaître à un moment donné, Blanchefleur. Et là, il y avait tout ce qu'il y a d'inépuisable dans l'amour et qui pouvait être dit parce que l'inépuisable de l'amour de Dieu sur laquelle se terminent les romans ensuite, c'est très bien, mais c'est l'indicible, justement, et donc ça fait pas une fin réellement romanesque. Mon professeur de philosophie, en classe de philosophie, un pauvre littéraire, à l'époque ça s'appelait comme ça, nous disait, alors ça avait justement une coloration religieuse, pourtant c'était dans le lycée, il nous disait, vous voyez, c'était son commentaire du mythe d'Erle Pamphilien dans La République. Il nous disait, voyez, ce que ça veut dire, c'est que après la mort, on a tout ce qu'on a désiré dans la vie, mais rien de plus. Et on est absolument malheureux, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Et si on a désiré ce qui est absolument inépuisable et sans fin, on l'a aussi. Et c'est ce qu'on appelle le paradis.
J'aimerais bien qu'on reparle un tout petit peu de ces romans d'amour. Vous avez, Martine Lerude, évoqué Erec et Enide. J'aimerais bien qu'on dise un petit mot aussi du roman de la Rose, tout de même, qui est quand même un très grand roman d'amour. Et puis, qui est un roman d'amour sur l'amour, et qui, dont l'amour est à la fois l'objet, le sujet, et même la mise en mouvement et l'amour, enfin tout le roman de la Rose ne fait que, dans sa forme et dans son fond, parler d'amour, en réalité.
Oui, il est difficile de parler du roman de la Rose, d'abord parce que c'est très long, ensuite parce que tout le monde trouve ça ennuyeux, ce qui n'est pas mon avis. Et parce que c'est un roman extrêmement profond dans la seconde partie, dans la partie Jean Demain, extrêmement compliqué, qui traite de tous les grands problèmes philosophiques, scientifiques et théologiques de son temps et qui souvent apporte des solutions originales. Donc le début est tout à fait dans le sens de l'amour courtois. Le narrateur est amoureux et à ce moment-là, il comprend rétrospectivement un rêve qu'il a fait il y a 5 ans et qu'il n'a pas compris sur le moment. Et la réalité de l'amour le lui fait comprendre. Et ce rêve, c'est comment il rêvait, qu'il se réveillait un matin, qu'il entrait dans le verger d'amour, voilà, que amour lui décochait une flèche qui entrant par l'œil l'atteignait au cœur, etc. Après qu'il avait vu un charmant petit bouton de rose, et il était amoureux du bouton de rose, et comment il essayait de cueillir le bouton de rose. Ça, c'est l'argument général. Mais là-dessus, ce greffe, toute une réflexion sur ce qu'est l'amour à la fois de façon, pour le coup, humoristique et satirique, là, sur les hypocrisies de l'amour, sur les déviations de l'amour, sur le jaloux, etc. Ou aussi sur les querelles du temps, les querelles d'université de Paris, les querelles, enfin bon, il y a absolument tout, n'est-ce pas ? D'ailleurs, ce est le roman de la Rose. En qui l'amour est tout enclose, dit-on. Et plus loin, Jean Demain dit, c'est le miroir aux amoureux. Et le mot miroir, à l'époque, désigne une encyclopédie, précisément. Et à la fin, il faut l'intervention de nature et de son chapelain Génius, et Vénus tire une flèche contre le qui met le feu au château où Bel Accueil est enfermé, et à la fin le rêveur déflore la rose avec son bâton de pèlerin, il y a une description assez précise, attends toujours, et je m'éveille. Mais pourquoi nature? Parce que nature, on va la chercher dans sa forge. Et qu'est-ce qu'elle fait, nature, dans sa forge? Elle ne cesse de forger de nouvelles créatures, parce que dans notre monde, nous sommes soumis à la mort, et que l'amour est donc nécessaire pour la une prolongation, la propagation de l'espèce. De sorte que ce roman qui est provocant, qui est obscène, qui a été condamné tout de suite après, enfin, et dans la grande querelle du roman de la Rose à l'époque de Gerson, de Christine de Pizan, etc., condamné comme misogyne, ce qui n'est pas d'ailleurs, condamné comme obscène.
Ce qu'il est,
mais d'une certaine façon pour la bonne cause, c'est un roman qui en plus est théologique, enfin sauf que le mariage, non, mais il est théologiquement tout à fait orthodoxe dans son histoire de nature et de reproduction. Simplement, il démonte l'amour courtois en disant, est-ce que vous croyez vraiment que l'amour a fait Robin pour Marion et Marion pour Robin seulement? Non, il nous a fait beau-fils sans doute, toutes pour tous et tous pour toutes. Ça ne veut pas dire qu'il faut coucher dans tous les coins, mais que chacun peut trouver l'amour comme naturellement par lui-même, par son propre mouvement.
Alors, nous allons écouter la deuxième partie de nos archives, Un chemin de la connaissance sur l'histoire du couple dans l'Antiquité, les deux Aphrodites. Ensuite, on va écouter une émission qui s'appelle Tire ta langue sur les mots de l'amour, de l'érotisme à la pornographie. Et là, vraiment, on n'a rien à apprendre au Moyen-Âge, qui était particulièrement grivois à ces heures, n'est-ce pas, Michel Zinck, et qui disait vraiment les choses.
Oui, vraiment.
Et puis, on va parler d'un roman d'amour et ensuite, on termine avec une émission de Catherine Clément qui nous parle d'une petite histoire de la Saint-Valentin. Et ensuite, on se retrouve naturellement avec vous, Martine Lerude et Michel Zinck, pour, au fond, saluer l'aube qui se lève.